Luc, quand moi je regarde un téléroman, une téléréalité, là, puis que il y a un des punchs qui achève, une des intrigues qui achève, j'ai toujours un petit deuil. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va vivre en fin de semaine dans la saga de Brett Kavanaugh,
celui qui doit être. Ça évolue très très vite. C'est pourquoi on a Valérie Beaudoin avec nous, qui est associée à la chaire Raoul Landurant et qui suit ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, c'est quoi? On en est où, là, précisément, à ce moment-ci? Il y a eu un vote ce matin.
Et c'est vrai que c'est une saga, un téléroman. C'est un peu toujours ça, là, ces temps-ci, aux États-Unis. Mais là, vraiment, avec l'affaire Brett Kavanaugh, c'est revirement de situation après revirement de situation. Et là, il nous laisse dans le suspense. Parce que aujourd'hui, on avait un premier vote pour aller de l'avant avec le vote de demain. Alors, c'est vraiment très procédural, là, en ce moment.
Pour mettre un terme au débat.
Exactement. Alors, pour aller à la prochaine étape, qui sera un vote samedi. Ça a passé au Sénat. On a eu la majorité, 51 républicains, 49 démocrates, ou mélangés, là, parce qu'il y a eu un démocrate qui a voté pour aller de l'avant et un républicain qui a voté contre. Mais ce qui est important, c'est qu'en ce moment, les gens qui ont voté pour aller de l'avant, pour clore le débat, n'ont pas tous dit si demain il allait avoir le même vote. Alors vraiment, il laisse un espèce de suspense, même si c'est pratiquement dans la poche pour la nomination de Brett Kavanaugh. Il y a Suzanne Collins, qui est du Maine, qui a dit qu'à 3 heures, elle allait confirmer si elle va voter oui ou non pour que Brett Kavanaugh devienne le nouveau juge à la Cour suprême.
Mais Valérie, pour nos auditeurs là, qui suivent pas les procédures américaines et tout, pourquoi est-ce que c'est si explosif? Pourquoi cette nomination à la Cour suprême des États-Unis est devenue un enjeu, pour dire le moins, polarisant, pour ne pas dire plus?
Oui, ben tout d'abord, il y a deux éléments, je dirais. Il y a ce que Brett Kavanaugh est, qu'il croit, ce en quoi il croit, c'est un juge de la droite qui est conservateur. Alors là, on remet en question.
Très à droite.
Tout à fait. Les questions de droit à l'avortement, tout ce qui est droit des homosexuels, le droit des femmes. Alors vraiment ça, on a peur qu'il renverse certaines décisions cruciales aux États-Unis. Alors ça, c'est la première chose qui fait peur aux démocrates et aux progressistes aux États-Unis. L'autre dossier, c'est le dossier de Christine Blasey Ford, qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement au début des années 80. Et il y a d'autres femmes aussi qui sont sorties de l'ombre dans les dernières semaines, en disant qu'il y avait un comportement pour le moins douteux envers la gente féminine. Et là, on se dit, est-ce que c'est lui qu'on veut vraiment avoir pour une nomination à vie à la Cour suprême des États-Unis? Les gens descendent dans les rues pour voter contre Brett Kavanaugh pour dire à leur sénateur, écoutez, on ne veut pas de lui, on croit les victimes d'agressions sexuelles et on a de l'autre côté qu'on croit un peu aux théories du complot, que c'est les démocrates qui ont orchestré tout ça pour pas que Brett Kavanaugh soit nommé.
Est-ce que le poste de juge en chef de la Cour suprême est si important que ça? Il peut vraiment faire des choses tout seul sans
juge
les autres
juges?
Ouais.
Juge en chef est en place, il s'appelle John Roberts. Ça, c'est un juge, un des neuf, celui-là.
OK. Alors, est-ce que c'est si important que ça qu'il puisse influencer à lui tout seul les autres?
C'est qu'en fait, là, en ce moment, la balance va changer. On avait une balance qui était assez, je vous dirais, 50-50. Il y avait un juge, le juge Kennedy, qui a pris sa retraite, que Brett Kavanaugh pourrait remplacer, qui était un juge un peu baromètre, qui pouvait pencher du côté un peu plus conservateur ou du côté démocrate par moment. Là, on aurait une majorité conservatrice. Ça veut dire que quand on doit interpréter la Constitution américaine, quand il y a des décisions qui se rendent jusqu'en Cour suprême, ça serait une majorité conservatrice qui aurait le dernier mot. Alors, oui, ça peut avoir un impact qui est vraiment important. Et c'est le fait qu'on est nommé à vie. Il y a des gens là qui sont là. Kennedy était nommé sous Reagan. Alors, tu sais, c'est des gens qui sont là depuis des années et on peut pas les déloger comme rien. Là.
Ils n'ont pas de date de péremption comme les sénateurs maintenant chez nous qui doivent prendre leur retraite à 75 ans. Là.
Non, eux, ils décident de prendre leur retraite à un certain moment quand ils en ont eu assez ou bien sûr quand il y a une maladie. Les procédures de destitution peuvent aussi s'appliquer à des juges de la Cour suprême, mais vraiment, c'est dans des cas extrêmes où on prévoit ça. Alors, vraiment, il est nommé pour une longue période de temps, 20 ans, combien de temps? Ça peut être 30 ans. Alors, si Brett Kavanaugh est là, ça veut dire que pendant des années, potentiellement, la balance du pouvoir, je dirais comme ça, ça va du côté des conservateurs, des gens un peu plus de la droite américaine, et ça fait extrêmement peur actuellement.
Et si la Cour, telle qu'elle sera, si Brett Kavanaugh y entre, avait été en place à cette époque-là, l'avortement ne serait pas permis aux États-Unis, les droits des homosexuels ne seraient pas reconnus aux États-Unis. Lui, il considère Brett Kavanaugh, puis il en a même fait une thèse à l'université, qu'on ne peut pas porter d'accusation contre un président des États-Unis tant qu'il est en poste et pendant son mandat. Tout ça aurait bouleversé de fond en comble la société américaine.
Ah oui, ça peut le bouleverser encore parce que justement, le point qu'un juge, un président qui siège actuellement pourra pas être poursuivi ou autre, quand on voit tout ce qui se passe avec les allégations de collusion, avec tout ça, on se dit, est-ce que lui va toujours être du côté de Trump lorsqu'il y a des, il y aura peut-être des décisions cruciales à prendre sur la présidence si on allait de l'avant avec des procédures judiciaires, par exemple? Alors, on se demande, est-ce qu'il est vraiment impartial? Est-ce qu'il va vraiment être capable d'être indépendant?
Et moi, j'allais ajouter quelque chose... Myriam,
oui.
C'est que Kavanaugh, là, au-delà des accusations de Mme Ford et tout ça, on sait maintenant que c'est un fêtard qui prend un coup comme c'est pas possible, qui a fait la fête comme pas beaucoup de monde l'a fait avant lui. On sait aussi qu'il y a un côté assez pervers. Souvenez-vous de l'enquête de Kenneth Starr sur Bill Clinton et Monica Lewinsky et tout ça. Mmh. C'est lui qui avait rédigé les questions posées par Kenneth Starr qui portaient sur la taille du pénis du président. Puis si oui ou non, il y avait un point de beauté à quelque part sur le pénis. Tu sais, il y a quelque chose de vicieux, disons, un gars assez particulier.
Okay. Maintenant, est-ce qu'on est en train de le juger pour ses idées ou pour ses comportements quand il était jeune?
Les deux.
Qu'est-ce qui compte le plus?
C'est la grande question parce qu'en ce moment, je dirais que l'affaire tourne autour de ses comportements quand il était jeune, l'histoire d'agression sexuelle et tout ça. C'est vraiment pour ça qu'on le juge. Mais c'est sûr que le débat de fond, puis qui est là depuis le début, c'est les démocrates veulent rien savoir d'avoir Brett Kavanaugh là. Ils veulent attendre les élections de mi-mandat en espérant, coûte que coûte, pouvoir nommer un juge qui est progressiste ou du moins qui est assez modéré à la Cour suprême. Alors eux, leur espoir, c'est de tout faire pour pas qu'on nomme Brett Kavanaugh et que finalement, ben après les au lendemain des élections de mi-mandat qui arrivent, là, c'est le 6 novembre prochain, eh bien on ait la chance d'avoir un Sénat à majorité démocrate et là d'avoir notre juge qu'on place à la Cour suprême et qu'on ait une espèce de balance des pouvoirs.
À l'inverse, c'est pour ça que les républicains poussent à pleine vapeur parce qu'ils savent que c'est leur dernière chance de pacter la Cour suprême.
Exactement. Alors, eux, ils mettent tout là-dedans. Et il y a une sénatrice, c'est la sénatrice Murkowski de l'Alaska, qui a décidé de voter non pour Brett Kavanaugh aujourd'hui. Elle a annoncé que demain, elle allait voter contre lui en disant « he's a good man ». Donc, c'est une bonne personne, mais je crois pas qu'il est bon dans ce poste-là. Il est peut-être pas assez impartial pour être juge à la Cour suprême. Et là, il y a déjà les attaques des républicains qui disent « l'Alaska, réveillez-vous, mettez-nous quelqu'un qui est vraiment une républicaine pure et dure, qui veut défendre la République, qui veut défendre les intérêts des États-Unis. Alors vraiment, on est très fâchés du côté républicain d'avoir cette sénatrice qui décide de voter contre Brett Kavanaugh. C'est vraiment un enjeu, là, je dirais, pas juste la Cour suprême, c'est un enjeu électoral, c'est un enjeu en ce moment de société parce que les États-Unis sont tellement, tellement divisés sur la question.
Mais j'imagine que si la sénatrice de l'Alaska dit ça, c'est parce qu'elle doit sentir que dans les élections de mi-mandat, ça va jouer pour elle.
Ben en fait, elle, c'est pas tous les sénateurs là qui sont en réélection pour le mi-mandat.
Non, mais
c'est
pour sa gang, je veux dire. T'sais.
Oui, c'est ça. Ben elle, je pense qu'aussi, ce qu'elle dit, c'est qu'en pleine conscience, je suis pas capable d'aller de l'avant avec cette nomination-là, parce que il y a un ancien juge à la Cour suprême qui a fait sa sortie dans les médias en Floride, qui disait qu'il était pour Brett Kavanaugh, un ancien juge à la Cour suprême républicain qui a dit après avoir entendu son témoignage devant les sénateurs, j'ai changé d'idée. Il est pas impartial, il est pas indépendant dans son discours. Il avait trop mis d'émotion derrière ça. Il y a plus de 2000 également professeurs de droit aux États-Unis qui disent « ne faites pas ça ». Alors elle sent peut-être la pression derrière elle aussi et elle se dit vraiment, elle se met un peu, excusez l'expression, sur la map avec ce geste-là qui est un geste assez fort.
Est-ce que si Kavanaugh est nommé demain par le vote qui va se tenir, est-ce que ça vient clore ce chapitre-là de la Trump story ou bien ça va continuer?
Dieu, Valérie, vas-y.
Mais ça dépend quel chapitre on veut dire. Alors si c'est par rapport
ce chapitre-là.
Oui. Ben en fait, je dirais que non dans un sens parce que on parle déjà d'impeachment, de destitution de Brett Kavanaugh si les démocrates gagnent l'élection en 2020 contre Donald Trump. Okay. Alors vraiment là, on est déjà en train de penser s'il est nommé, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à nos fins et déplacer Brett Kavanaugh.
Et j'ajouterai un dernier point, la juge très à gauche par rapport à la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, a 85 ans. Mm-hmm. Elle a dit qu'elle va rester là aussi longtemps qu'elle peut parce qu'elle veut justement pas qu'un espèce de Brett Kavanaugh prenne son siège. Mais pour, tu sais, je veux dire, il y a une seule certitude quand on vient au monde, c'est qu'on va mourir un jour. Alors, on sait jamais avec quelqu'un qui a 85 ou 86 ans et qui a eu des problèmes de santé sérieux, peut-être que notre ami Trump, qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas, va pouvoir nous en nommer un autre capoté comme Brett Kavanaugh.
Et on se rappelle que le juge Scalia aussi, qui à la fin du mandat d'Obama, qui est décédé, crise cardiaque, si je me trompe pas, c'était pas annoncé, il y avait pas de maladie, il était vieux, mais quand même pas à la fin de sa vie. Il était un juge à la Cour suprême, je veux dire, ça faisait des années qu'il était quand même là, et on l'a déjà remplacé, lui, par un juge nommé par Trump.
Alors bon, là, c'est... qui était quand même controversé.
Tout à fait, qui était très controversé, mais c'est pour ajouter à ton point que on est tous pas immortels. Alors ça peut arriver aussi qu'il y ait un autre juge à la Cour suprême du côté un peu plus de la gauche du spectre qui décède ou qui par une raison de maladie ou personnelle décide de quitter la Cour suprême.
Je vous écoute, puis honnêtement là, j'ai l'impression que Netflix a des croûtes à manger pour écrire des téléromans politiques.
Les scénaristes d'Andrew Card doivent être à l'écoute.
Merci Valérie Beaudoin.
Bon week-end.
Merci. De la chère Raoul d'Andrew.